Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
D'impressionnants impresarios. C'est notre thème cet après-midi dans Historiquement vôtre.
Plus ça va, plus vous le dites bien.
Oui, parce que, voyez-vous, à la fin de l'émission, il faut qu'on arrive à le prononcer correctement.
Oui,
c'est tout l'exercice de la chose. Après Domenico Barbaia, le premier impresario d'opéra, déjà, impresario.
On sent
que ça vient de là-bas, quoi. Ça vient d'Italie. Et le colonel Parker, l'agent d'Elvis Presley, vous nous brossez à présent, mon cher Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un agent qui, selon sa biographie sur Wikipédia, n'était pas que agent.
Et non, Stéphane, je vous parle aujourd'hui de Lou Pearlman, que sa propre page Wikipédia définit comme, je cite, « agent artistique, homme d'affaires et escroc ». Une partie de son escroquerie était relativement invisible puisqu'il s'agissait de malversations financières via des sociétés écrans. L'autre partie de son escroquerie était en revanche beaucoup plus visible, en tout cas audible, pièce à conviction numéro 1. Si vous étiez ado dans les années 90, tout vous revient. Charlie et Lulu, le Candy Up, vos Doc Martens mal lacés. Toute une époque où votre seule préoccupation était de savoir si vous alliez battre ou non votre record à Donkey Kong. La Covid, la disparition des thons rouges, votre avenir professionnel, tout ça à l'époque. Vous vous en cogniez royalement. Vous dormiez du sommeil du juste dans votre lit une place, sous un poster des Backstreet Boys. Cette insouciance, ces années de quiétude, ainsi peut-être que notre Gucciotte, nous les devons en grande partie à un homme, Lou Pearlman, le fondateur puis impresario des Backstreet Boys. Alors, Dieu sait, Stéphane, vous me connaissez,
je
ne juge pas les gens sur leur physique.
Heureusement.
Non, je trouve ça dégueulasse.
Parce que sinon...
Mais quand même, parmi les gens ayant tapé Lou Pearlman sur Google Images, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui se soient exclamés « Ah tiens, il a l'air sympa et honnête, en plus il est chic et distingué, je lui confierais bien toutes mes économies. » Non. Soyez objectif, Lou Pearlman, c'est le regard filou de Patrick Balkany dans le corps d'Émile Louis. Émile Louis qui dirait
« Ah, les babyphones, j'adore ça !»
Désolé Stéphane, c'est l'image que j'ai trouvée pour vous faire comprendre à quel point Lou Pearlman est louche déjà
vous
a priori.
Comparez...
Non, je vous compare pas, j'utilise une phrase pour montrer que vraiment vous voyez Lou Pearlman, vous l'imaginez dire ça, vous n'avez pas envie de lui confier vos économies. Vous allez découvrir...
Ni vos enfants, que... visiblement.
Non plus. Vous allez découvrir que celui qui fut le promoteur des plus grands boys bands américains leur a aussi sucé l'os jusqu'à la moelle. Lou né en 1954 dans le Queens, à New York. Son père travaille dans un pressing, sa mère dans une cantine scolaire. Leur maison étant située en bout de piste de l'aéroport de La Guardia.
J'adore la Corse.
Presque. Non, l'enfant passe le plus clair de son temps à regarder les avions atterrir et décoller, ce qui lui donnera de funestes idées par la suite. Alors vous allez me dire, comment un gamin du Queens, fils d'un teinturier et d'une dame qui sert du hachis parmentier à la cantoche, va-t-il entrer dans le monde très fermé de l'industrie musicale? Eh bien, grâce à son cousin. Son cousin n'étant autre que Art Garfunkel, eh oui, de Simon et Garfunkel. C'est le gros lot pour le gros loup. Car sa maman, celle qui sert le hachis parmentier à la cantine, en a marre de servir du hachis. Elle aimerait bien s'élever un peu socialement. C'est pourquoi elle met une grosse pression à son neveu, Garfunkel, qui a toujours été une poire. La preuve avec Simon, leur duo s'est appelé Simon et Garfunkel, et pas Garfunkel et Simon. Cette bonne poire de Garfunkel accepte donc de rincer son cousin loup, et pas qu'un peu, puisqu'il lui achète carrément son premier appartement et sa première Rolls. Une belle leçon pour le jeune loup qui réalise donc que dans la vie, on peut parfaitement avoir beaucoup d'argent sans être obligé de le gagner soi-même. Mais bon, faut quand même donner le change. Donc, Lou, qui vous l'avez compris, voue à la musique une passion pure et désintéressée, commence à s'improviser guitariste dans un groupe local, puis devient le manager d'un autre groupe du coin. Échec lamentable. Lou broie du noir dans sa Rolls, puis repense à ses rêves d'enfant, ses avions qu'il regardait décoller. Et alors qu'il est en première année à l'université, il se dit, comme avec David, « Tiens, et si je crée une compagnie d'hélicoptères-taxi ?» Un projet qu'il va mener à bien en négligeant, hélas, un élément important, crucial même du business plan pour une compagnie d'hélicoptères-taxi, le nombre d'hélicoptères. Lou se dit qu'avec un, ça va jouer. Mais non, car le temps que l'hélicoptère revienne à sa base, les potentiels clients auront meilleur temps de prendre un tuk-tuk. Hélas, un malheur personnel peut parfois déboucher sur un malheur collectif, car pour s'en sortir, Lou Pearlman est prêt à tout. Et c'est parce qu'il est prêt à tout qu'il va engendrer une des pires horreurs de la fin du XXe siècle, le phénomène dit des boys bands. Phénomène qui aurait pu rester au stade justement de l'épiphénomène si Lou, bien décidé à faire du blé avec n'importe quoi, n'avait pas découvert à la télé les New Kids on the Block. Hypnotisé par leur succès, séduit aussi par leur rapport prix-performance, le coût d'entretien d'un jeune homme imberbe chantant en playback étant bien moindre que celui d'un hélicoptère, Lou décide de partir en chasse au jeune homme imberbe pour monter son propre boys band. C'est comme ça qu'ils fondent les Backstreet Boys en 93 au cours d'un casting géant, casting classique et sauvage, puisqu'il va également trouver que le type qui fait Aladdin dans la parade de Disneyland a une bonne gueule. Allez hop, embauché. Ouais, c'est cool monsieur, mais j'ai un cousin qui s'appelle Kevin et il aimerait bien faire chanteur aussi. Ok, embauché aussi. Ainsi naquirent les Backstreet Boys. L'indigence artistique, esthétique et sonore de la chose n'empêchera pas le succès. Le groupe devient le boys band le plus populaire des États-Unis, vend 130 millions d'albums et surtout entraîne une recrudescence mondiale des groupes pourris, souillant les tympans d'une génération d'ados dont les parents avaient eu droit à... Et eux, génération perdue, génération sacrifiée à... Foutu boys band qui fait croire aux meufs qu'on voulait pêcher au lycée, que sous nos bombers chevignons se cachaient forcément des abdos tablettes de chocolat et qui fatalement, le jour où on enlevait nos bombers, eh ben, étaient déçus.
Elles avaient la mousse.
Eh oui, bah oui, je me souviens d'ailleurs d'une certaine Olivia qui m'avait dit...
Ouais, moi j'ai trop le seum. Hein.
Ah merde, c'était toi ? Mais les couettes alors. Bref, bon, c'est troublant. Lou Pearlman avait déjà fait pas mal de dégâts avec ses Backstreet Boys et vu en plus les contrats qu'il leur avait fait signer et qui faisaient qu'il palpait 4 fois plus de thunes qu'eux par album vendu, il aurait pu décider de s'en contenter et de mariner peinard dans une piscine de champagne à Miami. Eh bien non, il lui en fallait plus, toujours plus. C'est pourquoi il a eu l'idée particulièrement vicieuse d'organiser une guerre des boys bands. Il a donc lui-même inventé un groupe rival aux Backstreet Boys, les NSYNC, groupe qui révéla le célèbre Justin Timberlake.
Il n'avait pas encore attrapé la petite vérole ?
Pas encore, il avait à peine 17 ans. Ce business lucratif rapporte des tas de sous-sous à la Milou, mais pas assez à son goût. Alors là, il bascule dans le grand n'importe quoi en créant Transcontinental. Une entreprise dont l'objet social précise qu'elle est à la fois une compagnie aérienne, une production cinéma, des studios de musique, une agence de voyage et une entreprise immobilière. Plus futé que les autres, un des membres du groupe NSYNC, Lance Bass, s'en étonne. Il déclara quelques années plus tard, il ne nous a jamais fait voler sur sa compagnie transcontinentale. Il nous envoyait partout en Europe en classe éco toute pourrie. J'ai trouvé ça bizarre. C'est vrai qu'il soit incapable de nous offrir des places sur un de ses avions tout confort. Bien vu, Lance. Ce sont finalement les membres des Backstreet Boys qui sont les premiers à lancer l'alerte concernant leur impresario. Il y a un loup qui se serait dit. Ils le poursuivent en justice, avançant qu'il est parfaitement injuste que Lou se déclare comme étant le sixième membre du groupe, tout en étant payé 4 fois plus qu'eux. Cerné, Lou entame la phase chute libre de sa carrière. En 2006, le FBI découvre qu'il n'a pas seulement volé l'argent des poches de ses bébés chanteurs, mais aurait carrément monté tout un système de fraude pour inciter les banques à investir dans son entreprise fictive. Il reconnaît avoir escroqué 5 banques à Orlando et des milliers de particuliers grâce à la fameuse arnaque de la pyramide de Ponzi. Vous connaissez la pyramide de Ponzi, Stéphane ?
Oui, j'adore la Corse.
Toujours pas la pyramide de Ponzi. C'était la combine à Bernard Madoff. Vous savez, proposer des placements fictifs en promettant d'énormes rendements, mais dans super longtemps, c'est hyper lucratif, sauf le jour évidemment où un investisseur a besoin de revoir son pognon, tout s'effondre. Eh bien, comme c'est un système basé sur la confiance, Louis il en foutait plein les mirettes à ses futurs investisseurs en leur faisant faire des tours de limousine et en les amenant aux répétitions des Backstreet Boys pour les impressionner. C'est vrai que c'était hyper impressionnant. Le préjudice s'élève à 300 millions de dollars. Il est condamné à 25 ans de prison, mais même au moment d'entrer en tôle, un truc qui normalement te rend un peu philosophe, il reste fidèle à ses vieux réflexes pourri en s'exclamant « Oh, I want to have a reality show in jail. Oh, je veux avoir ma propre émission de télé-réalité en prison. » Super idée, Lou. Hélas, ta passion pour les Oreo cookies au peanut butter te perdra puisque tu succomberas d'un pépin cardiaque en prison et décéderas à 62 ans d'une manière très peu rentable puisqu'aucune caméra de télé-réalité ne sera là pour capturer l'instant. Je vous laisserai sur cette pensée rassurante que, au moins, l'époque où n'importe quel escroc pouvait faire fortune en faisant chanter n'importe quoi à une bande de gosses est révolue. Aujourd'hui, évidemment, on nous a fait le coup une fois. Ça ne passerait plus, ça serait trop gros. Oh ! Qui a mis les Kids United ? Ah non, Régis, non, ça c'est pas politiquement correct. Avec Stéphane, on adore les Kids United. Oui. Greffier, notez-le, on adore. Enfin, surtout Stéphane.
Oui. Moi, j'aimais bien... Comment ils s'appelaient les
trois... To Be Free.
Les To Be Free.
Partir un jour sans retour. C'est vrai, mais je crois que le leader nous a quittés. Hein,
oui,
c'est dans de tristes conditions.
Je vous demande de marquer...
Une minute de silence.
Merci Mathieu, c'était 99% vrai. Il y a donc 1% de faux.
Oui, si la Guardiane n'est pas en Corse, contrairement à ce que vous avez dit.
Europe 1, historiquement vôtre.